Donc voilà, nous, les éditions, on pense qu'aujourd'hui, on va basculer vers le numérique, à l'ensemble des questions d'édition. Vous voyez, on fait des livres, on fait des livres et des sites web, on se fait dans le multimédia. Parmi les livres que j'ai, il y a un livre qui a un DVD dedans. On va faire paraître un musilivre bientôt avec autour de Kind of Blue de Miles Davis, avec des textes et de la vidéo. Donc on n'est pas bloqué sur aucun format, en fait, de ce qu'on appelle un livre. Sauf sur une chose qui me semble la loi essentielle, un livre, c'est pas le web. C'est la seule vraie définition qu'on a du livre, c'est un livre, c'est pas le web. Aujourd'hui, à mon avis, ça recouvre tout le reste. Pourquoi c'est pas le web? Parce que le web, c'est toute l'information accessible à un moment donné, au milieu de la communication. L'information et la communication dans le web, c'est la même chose, c'est complètement mêlé. Je ne peux pas lire sans avoir quelqu'un qui vient m'envoyer un tweet sans recevoir mes mails, je ne peux pas lire sans avoir envie de le transmettre, etc. Un livre, c'est différent, je suis en mode, je peux être connecté, hein. C'est pas ça. Un livre, il est enfermé entre, comme disait Michel Belot, sa première et sa dernière page de couverture.
Là, depuis juste que je fais une classe, vous voyez, j'ai un bureau de 2 heures, et je suis sous minute, je ne peux pas
et donc je lance les 123 tables
de mon navigateur.
Donc pour moi, l'essentiel, la différence fondamentale, c'est pas le format sur lequel les livres vont être lus, c'est le fait qu'un livre est complet ou pas complet. C'est-à-dire qu'il est enfermé entre sa première et sa quatrième de couvre ou pas. Or, aujourd'hui, le lieu majeur de production de l'information, l'idée c'est que le lieu de production d'information, des textes, c'est le web. C'est aussi un lieu de distribution de textes, notamment de textes sous des licences ouvertes, Creative Commons, etc. Mais en même temps, ça ne constitue pas des livres. Donc on dit, ben, pourquoi est-ce qu'on ne va pas constituer des livres? C'est-à-dire, on a une approche du livre numérique qui dit que ça ne marchera que s'il y a de nouvelles personnes qui font les livres numériques. Donc voilà, c'est le risque de la démo, ça, c'est toujours pareil. Donc ce que je pense, c'est qu'il faut qu'à un moment donné, tout le monde reste dans le livre numérique sur la base. J'ai des éditeurs qui ont des textes, qui veulent les vendre en numérique parce qu'il y a des acheteurs pour acheter des liseuses. Si c'est ça, ça ne marchera pas. On appelle le livre homothétique, et objectivement, je ne vois vraiment pas pourquoi, à part pour partir en vacances avec une liseuse comme celle-ci, là, Sony, pour aller sur la plage parce qu'il est donc en mode lumière réfléchi, ou un iPad pour lire dans son salon parce qu'il est en mode lumière éclairée par derrière. À part l'intérêt de partir quelque part avec plein de livres, ça ne constitue pas des choses radicalement nouvelles qui méritent en fait de se passer de ces excellents appareils de lecture qui s'appellent le livre imprimé. Donc c'est parce qu'il y aura de nouveaux producteurs, parce qu'il y aura de nouveaux types d'échanges autour du livre numérique que ça marchera. Un peu comme si le web n'avait jamais connu les pages personnelles, puis les blogs, puis tout ça, si c'était resté un système de diffusion de l'information comme pouvaient l'être tous les autres, là, ça n'aurait pas marché. C'est parce que des nouveaux acteurs sont venus. Alors, qui on voit, nous, comme nouveaux acteurs? Eh bien, on voit ceux qui vont pouvoir créer eux-mêmes leur livre numérique avec un système en ligne. Voilà ce qu'on essaie de développer, c'est l'idée que les gens viennent et peuvent créer. Alors ils vont créer à partir de quoi? Ben, il y a ceux qui vont créer à partir des textes qu'ils écrivent. Ça c'est très bien, mais à mon avis, c'est pas non plus radicalement nouveau. Ça s'appelle l'auto-édition, ça existe depuis que l'édition existe, et donc ça n'a rien de radicalement nouveau. Par contre, ce qui va être radicalement nouveau, c'est qu'on a des gens qui vont utiliser le livre numérique pour rendre des services. Livre-service. Exemple, un enseignant. Qui va.
Alors, on ne laisse pas s'éteindre.
un enseignant qui va créer un livre numérique avec un texte au programme, deux ou trois critiques de ce texte, des textes complémentaires, qui va le packager, qui va le donner à ses élèves. Bien vu. Déjà, dès le début d'année, c'est bon signe, les gars, ils lisent tout ça sur leur smartphone, parce qu'ils en ont tous maintenant, ou presque, dans les lycées de région. Mais bon. Donc cet enseignant, c'est le documentaliste qui fait de la veille et qui fait un recueil de textes et qui le donne comme un livre, comme un paquet à donner en veille, tout est compris entre la première et la dernière de cours. C'est le chercheur qui fait une synthèse sur un domaine et qui la publie comme ça en mettant à côté les textes qui lui servent à sa synthèse. Alors tous ces nouveaux produits qui sont des livres numériques ne seront pas faciles à vendre. Les questions de droit. Mais en même temps, il y a aussi toute la logique d'avoir fourni l'information source en mode Creative Commons, en mode domaine public, en mode comme ça. Donc on va voir renforcé par cette nouvelle existence de livres numériques fabriqués par des gens pour des gens, pas par des éditeurs pour des clients, par des gens pour des gens, après on verra. Ça ne veut pas dire que ça ne sera pas vendu. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas des échanges marchands. Mais ça, c'est une autre dynamique en fait que celle qui est habituellement conçue. Qui ne veut pas dire que les éditeurs, nous-mêmes en premier, ne vont pas se servir de la plateforme. On n'a pas encore donné une conforme à vue parce qu'on veut servir de notre propre plateforme et elle est en bêta test. C'est-à-dire là, vous avez la dernière version qui a été faite hier par Charlie, qui a la prise de notes. Voilà. Alors, pour vous montrer un peu ce qu'on veut dire par cette nouvelle conception, je vais vous faire une courte démo, en fait. Donc, le système va être ouvert, on pense, dans le mois qui vient. On se connaît quand on a un compte d'utilisateur, je ne veux pas rentrer dans la fabrication du compte. J'en ai un. Quand on se connecte, là pour l'instant je suis vierge, donc j'ai rien, je vais créer. L'interface n'est pas encore totalement au point, notre graphiste favori. Celui qui, Nicolas Taffin, qui est le gérant de CF Éditions, qui a fait toutes les photos de livres, tout ça c'est des photos de livres, n'a pas encore mis sa main dessus. Donc vous avez que le graphiste qui nous sort, franchement, des bonnes relations. Donc voilà, donc on va créer un livre. J'ai créé un livre à partir, donc j'ai fait une recherche sur Google, sur la théorie des biens communs. Et comme certains qui ont pu avoir le malheur de me lire savent que ça m'intéresse pas mal. Donc voilà, j'ai fait une recherche, j'ai sélectionné dedans un article de ma pomme, un article de Alain Giffard, très intéressant d'ailleurs, un autre article issu de développement durable, et puis ceci qui est un wiki pour bien montrer les problèmes qu'on a. Donc l'idée c'est on a de l'information qui existe, je veux faire un livre de collation de cette information. Alors qu'est-ce que je fais, hein? Je fais du copier-coller, remix culture. Donc je prends tout ça, je copie, je vais faire un livre sur la théorie des biens communs. Que je valide. Et donc là c'est pas encore très beau, mais on ajoute un chapitre. Et je viens ici, je le colle comme texte. Alors, je pourrais le coller, comme dans tous les systèmes, je pourrais le coller sans texte. Nous, on a une conception, c'est que quand on change de média, il faut retravailler. J'ai copié du HTML dans ma mémoire. Je le colle ici et je vais faire du HTML. Et si je ne le retravaille pas, je n'ai pas de métier d'éditeur. Ça va marcher, ça va être visible, ça va être plein de choses pourries, ça ne va pas être propre, ça va être embêtant si c'est un aveugle qui l'utilise par un système sonore, etc. Donc, dans les best practices, on conseille de coller en texte et de retravailler après. Je vais faire juste un petit truc, ça ne sert à rien. J'ai répété avant, ça ne va pas vous en faire une partie des temps. Tac. Donc voilà, ici je suis en mode titre, donc je vais choisir le titre 1. Ici je suis en mode, je ne sais pas quoi, je vais mettre en italique. Et puis voilà, donc j'ai mon texte, je peux bien évidemment mettre de. Et je peux valider. Alors vous verrez, pour l'instant on n'a pas fait grand chose, mais on a déjà un livre numérique ici.
Et donc on a déjà un livre numérique ici qu'on peut prévisualiser puisqu'on a une liseuse en ligne. Donc vous voyez ici, j'ai mon livre numérique, je peux le voir en mode par page, sauter les pages, alors ici le texte par les pages telles qu'elles sont adaptées. Tout ça c'est rien que très classique. Donc je reviens à mon gestionnaire d'édition et là je voudrais mettre des images. Donc j'ai ajouté en fait des documents à mon livre. Là aussi le livre numérique, c'est un livre qui va être multimédia, c'est-à-dire qu'il va avoir plusieurs choses. Pour l'instant on ne traite que des images. Dans le format EPUB, puisque c'est un livre au format EPUB, on peut aussi mettre le PDF du livre dedans. Ça c'est un élément intéressant. Mais je suis convaincu qu'on aura très très vite d'autres moyens. Pour l'instant les liseuses ne savent pas comment le faire, de mettre de la vidéo ou du son. Mais on aura des tas d'autres choses qui vont très vite se développer. Je vais chercher des images sur Diagonal. Et je vais mettre Edmondstrom. Alors, dans notre système, une image, c'est un document. Donc, si c'est un document, il y a un titre. Ça, c'est Edmondstrom qui a eu le prix Nobel. Le prix Nobel d'économie en 2009, je peux rajouter un résumé, vous trouverez l'information, je ne vais pas vous embrouiller avec ça. Je vais ajouter une autre image. J'ajoute en fait une série de documents que je veux associer. Celui-là. C'est en fait de déverdier mon. Voilà. Donc j'ai des images ici. Je vais donc essayer de les mettre à l'intérieur de. Donc je vais les mettre à l'intérieur ici. Donc je vais mettre la photo de Pilon de Sport à cet endroit-là. Je choisis mon Armstrong. Je vais les prendre médium et milieu. Je l'enregistre. Je vais choisir une image de couverture. Alors bien sûr, dans un livre, on est en général, on a une image de couverture, puis l'image, on a écrit le titre du livre sur le dessin, on a écrit l'auteur, le nom de l'éditeur. Enfin, c'est une vraie image. Et puis voilà, et maintenant, j'ai à nouveau mon livre que je peux prévisualiser, donc avec l'image de couverture. C'est au chapitre suivant. On va voir les images qui sont intégrées dedans. Alors vous me dites tout ça, c'est sur le web. Donc maintenant, je dois obtenir le livre numérique. Je peux rajouter bien évidemment un autre article. C'est pareil. Je le mets ici. J'ajoute un chapitre. C'est ça, contenu. Alors là, bon. Ah, je m'en répète. J'annule. Je vais le saisir en mode texte. Effet démo, j'ai pas fait copier coller montage. D'accord, je veux juste vous montrer quelque chose sur les notes, puisque c'est un site qui a des notes ici. D'accord, donc là je peux dire si je vais ajouter une note et je prends le contenu de cette note numéro 1 qui est. Donc, j'enregistre. Et là, si j'ai oublié mes articles, je ne mets pas en titre, hein, je ne vous en prie pas avec ça. Donc, si je veux le prévisualiser maintenant, mon livre, section suivante, alors, c'est la deuxième. Là, j'ai les notes qui sont en lien interne. Je peux revenir sur la note. Alors vous me dites c'est bien gentil, mais maintenant il faudrait que ça marche sur une liseuse. J'ai fait mon livre, il est déjà en format EPUB, donc je l'enregistre sur mon ordinateur. Je vais l'enregistrer sur mon bureau. Et donc, il y a, pourquoi il y a plein de choses sur le bureau. Je l'appelle BC.
C'est rempli au sein du pas chez moi. Donc il est ici, je peux ensuite le lire avec une liseuse. Là aussi, une liseuse, on a eu tendance au début des années 2000 à confondre la liseuse, celle-ci, et le fait de lire, ben, l'appareil pour lire. Donc je peux imaginer, soit je vais avoir une liseuse en ligne, mais je peux aussi imaginer, ce qu'on peut imaginer en affaire, c'est un lecteur qui a un add-on à. C'est un add-on à Firefox qui est une liseuse en ligne. Et je l'ai donc sur mon add-on à Firefox avec les textes ici, le système là qui doit avoir de la note qui est appuyée dans le chat. Donc ça c'est bien gentil. Une fois que j'ai mon pub, ce qu'il va falloir c'est que j'arrive à le mettre sur une plateforme de diffusion. D'accord, donc là, pour l'instant, on a le modèle de fabrication. On est en train de travailler, on a le modèle de lecture derrière. C'est on va être capable de gérer des bibliothèques de pubs. Et puis, une plateforme de diffusion. Alors, il y en a déjà qui existent. Hein. Si vous êtes déjà un éditeur connu, vous pouvez prendre le pub et le mettre chez Apple. Il est conforme au format pub. Si vous n'avez pas, ben, nous, on est en train de créer une plateforme de diffusion. Pour l'instant, elle n'existe pas. Donc, je vais le faire à la mano. C'est-à-dire, je vais copier. Copier mon fichier et je vais copier sur notre serveur. La liste de mes groupes que j'ai mis là-bas et avec la clé bien commun, un peu plus, parce qu'on vient de fabriquer, il est là. Et je vais le lire avec soit avec Stanza, soit avec d'autres lecteurs. Stanza étant le lecteur de mes pubs, il est ici. Et donc c'est le livre qu'on vient de fabriquer, disponible avec l'ouvrage. Tout ça, pour revenir. Les autres articles ici et l'autre marche. Donc on peut le lire aussi sur un reader de pub et puis tout ça. Donc derrière l'idée qu'on a, c'est justement c'est d'offrir un outil qui soit à la fois accessible. Alors, vous avez vu, c'est rapide, c'est pratique, c'est pas plus compliqué que n'importe quel site de blog, qui soit opérationnel donc pour les individus, les bibliothécaires, les enseignants, tous ces gens qui vont créer le succès en fait du format pub et des livres numériques. Et en même temps, il est assez puissant pour être utilisé par un éditeur. Et on va avoir 5 minutes. Malheureusement, je demande tous les ans au Père Noël qu'il augmente la durée de la journée, mais ça ne marche pas. Donc voilà. Alors, derrière, si vous voulez, c'est pas tant là. Bon, système lui-même, ce qui était intéressant peut-être de discuter, c'est l'hypothèse qu'on fait que ça va être de nouveaux acteurs qui vont se servir du livre numérique, c'est-à-dire qu'on va redéfinir le livre numérique non pas comme un nouveau produit en vente, ce qui ne veut pas dire qu'ils ne seront pas en vente, ou nos livres seront en vente. Il faut bien qu'on vive de quelque chose, il faut bien qu'on paye cher nous, il faut bien tous ces trucs-là, donc il n'y a pas de raison de ne pas vendre, mais qu'ils soient aussi ouverts à d'autres acteurs, certains vendront, certains seront en marché. Mais c'est cet ensemble et cette dynamique qui fera un vrai succès. Voilà. Et puis, si vous avez des idées de business model à nous donner, parce que ça n'a rien d'évident, il y aura des choses qui doivent être gratuites, il y aura des tests qui doivent être gratuits. Je vois pas, bibliothécaire, s'il faut qu'il commence par mettre sa carte bancaire avant de pouvoir faire un pub, ça ne marchera pas. Mais en même temps, il faut qu'on arrive à vendre. Donc, on est en fait sur une toute autre dynamique que celle qui préside traditionnellement au débat sur le livre numérique. pas dans une dynamique de vendre des produits qui s'est fabriqués en sortie de InDesign ou en sortie des chaînes traditionnelles de l'édition. On est dans une dynamique de considérer le livre numérique comme un nouveau modèle, un nouveau produit pour distribuer l'information comme on a eu avant le livre, le CD-ROM. J'espère avoir été assez rapide pour ne pas vous ennuyer, laisser le temps. C'est Charlotte qui a développé tout ça.
Alors, le livre, on peut aller le chercher sur le site. Si vous avez mis en mode. Voici quoi, mot de passe.
Non, pour l'instant, non. Là, c'est pas encore.
C'est pour voir.
À toi, si tu veux le tester.
Oui,
ça, tu peux. C'est cfedition.com/ebooks. Là, c'est libre, mais c'est que des tests. Hein, tu peux regarder.
Non, mais pour,
mais celui qu'on vient de faire, tu peux le chercher. Ouais.
Avec
un
expédition.
Cfedition.com/ebooks. Là, c'est que des tests, c'est un bac à sable.
Pour un éditeur papier, vous partez quel fichier ?
Pour un éditeur imprimé,
ouais.
Bien, pour l'instant, moi je considère, on a essayé, on peut uploader un pub existant. Le problème, c'est que InDesign fait des e-pubs qui sont pourris. Le fichier e-pub, en fait, il doit être séquencé en petits morceaux, sinon c'est pas gérable. Or, InDesign te fait un immense fichier HTML avec des encres internes. Et donc, quand tu as un livre entier, c'est trop lourd quoi, à regarder. Feedbooks fait ça mieux. Les livres de Feedbooks.
On peut les livres de Feedbooks dans le système, ça marche.
Je dois en avoir un livre de Feedbooks, je peux montrer ça.
Tu peux redire l'adresse ou...
cfedition.com.
Ouais.
En singulier ?
Non, les éditions. CF, ça veut dire cigale et fourmi.
Cigale et fourmi, c'est un nom sur le nom. Et après,
comme si vous faites que ça, vous avez le site.
On
va trouver le site. Le site, il est beau d'ailleurs. Je vous conseille parce qu'on peut acheter en ligne, surtout tous nos bouquins qu'on vend, n'hésitez pas.
C'est le manifeste du Parti communiste.
Ouais, excellent. C'est un vieux, c'est pas. Il y a des tests qui celui qui vient de faire, c'est celui-là, un bien commun.
On va ton choix.
Dieu aussi, ce marché.
C'est sûr.
Ah oui, non, ça marche. Il n'y a pas de problème, c'est un peu plus normalisé qui passe le pub chez.
Est-ce qu'on peut faire une BD en e-pub?
Je vais laisser peut-être répondre à l'autre.
Si
tu considères que chaque vignette est une image et que tu installes les images, tu peux. Après, il y a eu un débat, il y a eu un article très intéressant dans l'atelier cette semaine de quelqu'un qui disait, attendez, le livre c'est une machine à lire. Si c'est une machine à lire, il faut qu'on repense non pas à faire des e-pubs, mais d'autres machines à lire, des applications autour du livre. Ça se discute, hein, si vous regardez là, sur le iPad. Ici, donc il y a un autre truc. Et puis il y a, vous connaissez peut-être, Alice in Wonderland, qui est une vraie machine à lire. C'est-à-dire c'est une approche complètement différente de la lecture, du changement des pages. Donc ça, c'est une application livre, comme il y a d'autres choses. Ce n'est pas ce que fait le format flux, c'est une autre application. Je pense pour la BD, les applications comme ça, on peut les animer. Mais parce que c'est très, très particulier. Sauf si on peut, avec notre système, on n'a pas encore essayé les BD.
Il suffit de mettre une image par chapitre, par exemple. Après, pour la navigation, est-ce que ce sera le plus intéressant ? C'est pour le confort de lecture après qu'on peut, t'es content.
Il y a qu'un HTML5, ça se trouve, on fait des choses aussi.
Avec
HTML5, ça se trouve, on fait des choses comme ça.
Alors, le problème de pub, c'est que pour l'instant, la norme pub 1, telle qu'elle existe, n'est pas HTML5. Et pour une raison très simple, c'est que les liseuses, surtout celles-ci, là, c'est les anciennes, voire le Kindle, ne sont pas adaptées à toutes les possibilités. Sauf que dans le EPUB 2 qui est en chantier, grosso modo, on va avoir HTML5. Et HTML5, c'est plus un modèle de description de document. Le pub, c'est de la description de document au sens documentaire, c'est du XHTML. HTML5, c'est un,
c'est en fait ouvrir un document à des API, c'est-à-dire à des pour résumer à du JavaScript, c'est-à-dire à des possibilités de navigation, d'échange, de choses.
Pour l'interactivité, c'est intéressant.
Pour l'interactivité, c'est très intéressant. Pour la lecture, ça ne change pas grand-chose. Ce n'est pas la description de document. Donc il y a deux philosophies. Le collègue, on a écrit un article justement sur ces deux philosophies, HTML et XHTML pour décrire les documents et HTML5 pour gérer les applications.
Et XML, tu ne prends pas?
Si, si, XML, c'est XHTML. En fait, XML, c'est très généraliste. Si tu veux format interne d'un pub, vous connaissez le format interne d'un pub, vous êtes allé regarder dedans, ça vous intéresse?
Mmh.
Ouais. J'ai changé son nom, bien sûr. Là, donc, un but, c'est un fichier zippé, en fait. Je ne sais pas si vous y voyez quelque chose, je vais peut-être agrandir. C'est un fichier zippé, donc quand on le dézippe, voilà ce qu'il y a à la lecture. Vas-y, je te laisse expliquer, Charles, c'est pas essentiel.
Donc là, on peut voir tous les fichiers qui composent le fichier de test qu'on va faire sur le document. Donc, en gros, un fichier cube, c'est donc une archive zip qui est basée sur le langage XML. Et également le SHTML, donc pour le moment, peut-être que ça changera avec la prochaine spécification. Donc il y a deux fichiers qui sont les plus importants dans un fichier pub. C'est un fichier qui s'appelle OPF et un fichier qui s'appelle NCX. Le fichier NCX contient en fait la table des matières du livre. Donc là, pour celui qu'on vient de faire, il indique que le premier chapitre c'est la couverture et ensuite les deux suivants. Donc c'est la table des matières du livre.
On va leur montrer, on leur montre. Hein.
Donc ce fichier-là, par exemple, c'est du XML. Il est dans OSB, c'est le fichier OPF qui contient toutes les ressources physiques qui sont utilisées dans le fichier. Donc les ressources physiques, ce sont bien évidemment les chapitres HTML, mais aussi les images, les feuilles de style qu'on peut utiliser pour la mise en page, les sons et les vidéos, puisqu'on a le droit d'en utiliser dans un grand format. Et éventuellement même des polices embarquées, même s'il y a peut-être encore des efforts à faire pour les liseuses, mais théoriquement on peut embarquer des polices pour avoir la typographie souhaitée pour son son.
Ça marche au milieu.
Voilà, c'est peut-être des liseuses après ça. C'est
ça marche au milieu.
Ça veut dire qu'on peut maîtriser la police.
On peut maîtriser autant vraiment que les web designers maîtrisent ce qui peut être vu sur un site web.
D'accord, donc on ne maîtrise pas.
C'est un peu plus compliqué que ça. Les web designers, depuis 15 ans, ont acquis des compétences qui leur permettent. Il y a des choses qu'on ne maîtrise pas et d'autres qu'on arrive à compenser. Donc il y a des phénomènes aussi de dégradation gracieuse. C'est-à-dire où, quand l'appareil de lecture sait pas faire, ça marche quand même.
Non, mais c'est un peu comme l'attraction. La citoyenne, quand vous vendez les premières factions, vous pouvez choisir la couleur à condition de choisir le noir.
Non, c'est un peu plus que ça. C'est un peu plus que ça. On a droit au noir, au gris, au vert et au rouge.
Voilà.
Regardez, c'est déjà ça. Et le reste, ça s'appelle HTML5, mais le jour où toutes les liseuses auront HTML5, là,
ça veut quand même dire qu'on ne peut pas faire de l'édition. De qualité, de grande qualité au niveau typo.
On peut faire de l'édition de grande qualité numérique. Non, mais c'est important ce que je dis. C'est pas un livre. Dans un livre, le typographe voit très exactement ce que voit son lecteur, sauf s'il y en a des deux qui est daltonien. Donc il voit très exactement. Il y a une copie conforme. Là, c'est autre chose. Le typographe pense l'ergonomie de ce que va pouvoir voir un lecteur. Et c'est un autre métier. Nicolas Taffin, qui fait les photos, qui est le gérant de CF Édition, est président de l'association des typographes de Lure. C'est un vrai typographe graphiste. D'ailleurs, si vous regardez le mur, à la fin, chacun a un colophon, on est remercié de ce fait tel et tel jeu de caractère, il y a une description du jeu de caractère utilisateur. C'est un vrai travail de typographe, il fait aussi de la typographie. Mais c'est pas la même chose, forcément.
Donc, je reformule ma question, parce que sur le web, en fait, on peut choisir que dans les polices qui sont dans la machine. Ouais. Est-ce que là, on peut embêter, remarquer sa police? Enfin, je formule autrement. Ouais, parce que dans HTML5, on peut aller requérir des polices, d'ailleurs, c'est une commande, il y a des sociétés qui commencent à les mettre en ligne. Là, est-ce que là, elle est dans ma liseuse ou non?
Il faut remarquer la police.
Ça marchait avant, ça marche encore. On l'a supprimé. Donc il y a quelques mois, on avait fait un test, ça marche.
Il faut remarquer la police, donc il faut avoir le fichier.
Ici, voyons, on a des feuilles de style. Et on peut rajouter un répertoire de police. Et dans la feuille de style, que j'appelle la police.
D'accord.
Et les polices, le format, c'est quoi?
Donc la limitation, c'est qu'il faut que les yeux soient capables de lire ce fichier-là. C'est ça la limitation.
C'est la machine physique.
Voilà. Donc on est capable de livrer au client, enfin au lecteur, pardon, au lecteur final, on est capable de délivrer la police, alors que dans le web, on n'est pas capable de faire actuellement.
Comment ça?
Avec HTML5, on peut, mais pas avant. Donc là, on est capable de mettre la police dans l'e-pub. Par contre, si ma liseuse n'est pas capable de lire le TTF ou le fichier, là, ça ne marche pas. C'est ça, là,
on aura autre chose. D'accord. On aura une version dégradée. C'est important, c'est de penser que c'est un package. Et c'est ça qui, à mon avis, est le truc qui nous permet de dire qu'on aura d'autres usages. C'est que c'est un package qu'on a. Vous voyez, typiquement, quand je disais tout à l'heure, le prof qui fait un e-pub autour de son cours, et les premiers qui vont les distribuer comme ça, ça va être
j'ai une autre question portant sur les sons que l'on peut embarquer. Comment ils se déclenchent? C'est-à-dire, puisqu'on n'a pas d'interactivité, ils se déclenchent quand on l'ouvre et après c'est fini.
Ça marche pas.
Pour l'instant, c'est plus simple.
C'est clair. Attendons en fait la version 2 de pub qui va s'aligner sur HTML5 et on aura en fait dans les liseuses eux-mêmes poursuivre. Est-ce qu'on est obligé d'avoir des clients de liseuses?
C'est vrai qu'il ne faut pas acheter des liseuses aujourd'hui, puis il faut attendre.
Non, ça c'est. De toute façon, le jour où tu n'achètes pas une, ce sera déjà des liseuses. Donc ça c'est clair. Le jour où on achète quelque chose,
c'est clair.
Au revoir. Mais ça marche déjà là-dessus. Sur le iPad, comme c'est le même moteur graphique qu'ils utilisent pour le navigateur ou pour les lecteurs privés, c'est comment la liseuse utilise le lecteur graphique. Puisque à un moment donné, c'est un fichier HTML. Ce fichier va être lu par une machine graphique connue par Gecko, WebKit, etc. Donc c'est, derrière tout ça va être possible avec le développement des machines graphiques elles-mêmes. Qui est un espèce de cercle d'entraînement. Et le cercle d'entraînement aujourd'hui, c'est le web, hein, pas le YouTube. Donc c'est quand les choses du web sont capables d'entraîner des techniques, le YouTube va en bénéficier.
C'est plutôt une bonne nouvelle si c'est du HTML. Ça veut dire que parce qu'il y a un gros travail sur les browsers, sur les navigateurs, donc on va en bénéficier.
C'est pour ça qu'on en bénéficie. Et c'est pour ça aussi qu'un des intérêts du IPU par rapport au développement d'applications, je vous ai montré un exemple tout à l'heure, c'est qu'on va bénéficier de tout le savoir-faire des web designers.
Et par rapport au PDF qui évolue aussi de la même façon vers l'intégration de vidéo, comment vous voyez ça?
C'est pas vraiment ça, le PDF, c'est pas bien. Ça met pas l'impression.
Les nouveaux PDF sont en flot. Nicolas, ta femme préfère le PDF.
Actuellement, le PDF est plus performant que toute
intégration vidéo. Oui, sauf si vous voulez lire sur votre iPhone. Et puis, le PDF nous évite de réfléchir au fait qu'on distribue un nouveau produit pour un nouvel appareil de lecture. Donc là, on est obligé d'y réfléchir. Les questions que vous avez posées sont des questions qui deviennent obligatoires. Et donc, on a une pensée de designer. C'est ça le plus important. On design les choses différemment. Si on met du PDF, ben, bon, on va avoir l'équivalent du livre, mais on ne va pas l'avoir pensé comme un produit différent. Et si ce n'est pas pensé comme un produit différent, tout le temps, il y aura le cas, parce que le livre, c'est quand même mieux. Si c'est pour avoir la même chose qu'un livre, c'est
le vidéo.
Ah, pour la vidéo, c'est moins bien. On est obligé de la glisser derrière, de venir dans un appareil.
Il y a quand même des questions fondamentales. Bon, même si c'est différent du livre, etc., etc., c'est quand même maîtriser les typos, maîtriser le positionnement des images, maîtriser la... Tout ça, c'est quand même vraiment important, me semble-t-il. Parce que bon, moi, je fais du web design depuis des années. C'est quand même extrêmement fatigant. Les heures que l'on peut passer pour mettre une page en forme, c'est de la folie furieuse, on ne peut pas continuer comme ça. Franchement, c'est très frustrant et on peut passer des journées à travailler seulement sur... Je ne me trompe pas, hein. Bon. Et donc, on est quand même dans une ère qui est, enfin, même sur le web, qui est extrêmement frustrante et qui est chronophage, qui est usante, il y a énormément de défauts. Et j'ai l'impression que dans le livre, on se réembarque avec ce format IPU qui est quand même un peu... qui est en retard par rapport aux possibilités des machines, on se réembarque dans les mêmes défauts qu'on connaît sur le web depuis des années. Donc je provoque la discussion là.
D'ailleurs, je suis totalement d'accord, là, dans la démo, ça se voit parce qu'il faut rentrer les données. Et c'est très très évident. La façon de rentrer les données, par exemple, aujourd'hui. Si on va sur plein d'interfaces, on rentre le lien, on récupère les données qui sont intéressantes. On pourra récupérer que le texte en mettant l'URL de ce qu'on veut, récupérer les images avec les légendes et tout ça. C'est parce que les textes sont les règles et tout, on n'a pas tout à retaper. Une interface, il faut tout retaper, c'est une interface qui est vraiment, comme on faisait des interfaces, on va dire, 2000. Enfin, on fait une interface en 2010.
Ce que tu voudrais, c'est qu'on mette un URL et qu'on dit retrouve-le dans le.
Ouais, je prolonge là, il y a plein d'éditeurs qui ont investi ces dernières années dans des chaînes, il y en a peut-être ici, qui ont investi dans des chaînes du numérique, ils ont investi, ils ont acheté des trucs, des e-design, etc., pour prendre des PDF et tout ça, et aujourd'hui, on leur dit, attention les petits gars, là, il va tout falloir ressaisir, ça va les énerver, non?
On peut imaginer. logiciel ou design. Ça, c'est une orientation que prendra peut-être la plateforme.
Sur le service, parce que tu en discutes, moi j'ai compris ce que ça faisait. Donc j'ai sûrement loupé quelque chose. C'est un service qui me permet de faire des copies collées en ligne, de documents, de sources diverses, y compris du même.
Oui, de saisir
directement. De saisir
directement, et de l'exporter au format IP.
Je peux avoir un export PDF tout IPUB, Word tout IPUB. Enfin, pourquoi en fait, ce service en ligne, je...
On ne l'a pas mis dans la démo, mais on peut aussi vraiment avoir la main sur la mise en page. Ça, c'est ce qui manque encore dans beaucoup d'outils qui existent.
D'accord, donc
rajouter les fonds, les feuilles de style.
Dans la démo, mais on peut avoir la main sur tous les feuilles de style, vraiment personnalisées si on
veut. Il n'a pas marché, ça n'existe pas dans les convertisseurs ou de ceux qui ont... Enfin, moi, je parlais plutôt des outils d'informaticien ou des pipelines de traitement.
Pipeline de traitement, c'est un certain marché qu'on ne vise pas du tout. C'est le marché de ceux qui ont des chaînes installées, etc. Le Gallimard ne va pas chez nous. C'est plus le marché.
Enfin, je pense à des outils de type talent, quoi, des extractions de données, de transformation. J'applique toutes les transformations XML, les CSS, etc. Ce que je veux. Et...
Mais ça marche.
De l'informaticien, donc.
Ouais, ça marche mal pour l'instant, c'est-à-dire que il y a des outils qui
parce
existent.
Que moi, je précise, j'en regarde plus d'informaticiens.
Ouais,
je me dis, puisque je vois pas le. Encore moins le business model. Ça, c'est autre chose, mais bon, ça. Mais même le. Qu'est-ce que ça fait pour qu'il n'existait pas? Est-ce que ça comble le manque? Est-ce que ça apporte quelque chose qui peut développer des nouvelles pratiques? Peut-être ma méconnaissance du métier, là, qui me permet
cas,
pas de voir.
Ce qui est intéressant, c'est que. Au moment de la naissance des blogs, les gens disaient la même chose. Qu'est-ce que ça apporte de plus les blogs? C'est jamais qu'on avait Dreamweaver à l'époque et ça faisait mieux que les blogs. Sauf que c'est les blogs qu'on a mis au monde.
Ça veut dire que ce que tu as souligné dans la présentation, ouais. C'est comme si vous avez un WordPress, un blog en ligne, pour pouvoir faire votre fin de vie.
Alors après, comment vous positionnez par rapport aux exports, aux deux ou trois plugins qui étaient des exports de WordPress. Depuis WordPress?
Ah, c'est des concurrents, on les aura.
Ouais, non, mais de toute façon, l'informatique, là, on a une fois inventé le jeu tout le temps.
Hein. J'en ai testé,
ils sont pas bons. Ils sont pas bons, non. Je pense qu'on est bien,
on s'est arrêté, on les aura.
Mais bon, c'est sûr, hein. ce qu'il y a de bien, s'il y en a un qui est bien, qui est différent et peut-être meilleur que le nôtre, pas sur la qualité de son pull, mais sur la qualité de son workflow, c'est la poule.
Comment
c'est la poule. Et c'est vraiment ça. Bien. Bon. Je suis aussi prendre de fin, je suis capable de dire que les autres. On vise juste une application différente, c'est vraiment fabriquer des livres. C'est avec la coupe de l'œuvre qui a été fait la biographie de Charles Stallman, publiée chez Erol, par exemple. C'est toujours pareil. Si on vise ceux qui sont capables de mettre en place une chaîne, nous on a dans notre équipe des gens avec Facopo, qui récupèrent en fait les fichiers qui ont été sortis de photocomposition et qui ont toute une chaîne de traitement pour faire derrière des vues, des trucs comme ça, de l'attente, de la découverte, etc. Là, effectivement, c'est des chaînes. Il y a un informaticien à plein temps qui arrive à faire fonctionner. D'accord. Donc ça, c'est inaccessible à un centre de notes qui veut faire une veille en pub. C'est inaccessible à un petit éditeur, et pourquoi un éditeur comme nous qui fait bien 1 000 par an, c'est inaccessible. Donc, on vise l'autre catégorie. Moi, je crois aussi, par rapport à ce que vous disiez, là, ça me semble intéressant, le problème du web designer, c'est pas tant qu'il passe du temps à designer son web, c'est qu'on ne paye pas pour ça.
C'est la même chose.
Pas tout à fait.
C'est-à-dire, si les gens arrivaient à comprendre que le web design c'est un vrai métier, que ça ne se fait pas comme ça, etc.
Non, c'est la même chose, puisque travailler c'est convertir du temps en argent.
Sinon, c'est une mauvaise idée.
Ouais, mais. Ça veut quand même dire, quand on voit des gens qui vendent des sites web à des prix ridicules, et j'ai l'impression que la démarche de création de numérique se dirige tout droit dans la même philosophie, où on mélange allègrement des productions de bonne qualité et des productions, voire même qui sont externalisées dans des pays à faible coût, de main d'œuvre, parce qu'il y a des éditeurs qui font ça, qui font numériser leurs livres à Madagascar. ce que je trouve assez malsain avec tous les défauts de l'économie actuelle. Enfin, et là, dès le début, alors qu'on n'a même pas, que le marché commence à peine à se mettre en place. C'est caricatural.
Ah, non, c'est pas caricatural, c'est la vérité. Vous allez sur les systèmes de réforme, vous récupérez les pubs du domaine public, et ils sont gratuits, mais enfin derrière, vous pouvez dire bonjour. Il y a des problèmes de jeu de caractère. Il n'y a personne qui a relu. Le métier d'un éditeur, c'est de relire. Enfin, je veux dire, c'est dans la chaîne du livre, ce qui fait le livre, c'est qu'il est fermé, et ce qui fait l'éditeur, c'est qu'il relit, qu'il travaille le texte, qu'il est le premier lecteur. C'est pas seulement un metteur en page, l'éditeur, il doit faire le travail. D'où l'idée que je suis pas fanatique de l'idée qu'on peut récupérer un truc. On peut, dans notre système, prendre du copier-coller de ce PIP, et le coller dedans, et ça marche. Puis tu obtiens, et tu peux le lire. Sauf si tu reviens à changer quelque chose. Là, tu n'as plus l'éditeur de ce PIP, c'est un autre éditeur. Donc, tu es obligé d'aller regarder le code. Alors, on peut aussi accéder au code, donc il faut savoir le faire, et finalement, ça me donne le risque d'avoir dit j'ai mon texte et je le recompose dans mon projet. Après, on va faire un connecteur speed to le système. Hein, ça, on va le faire. On va le faire sur WordPress, on va faire des connecteurs. Mais quelque part, l'idée de dire aux gens si vous voulez devenir éditeur, même si c'est éditeur, vous, prof, qui va donner à vos élèves, ou vous, documentaliste, qui fait un livre de veille pour donner à vos clients, vous devenez éditeur. Quelque part, c'est votre responsabilité de relire avant ce que vous allez distribuer, corriger vos notes de grammaire qui restent sur le script, et etc.
Du coup, c'est un outil qui va vous aider à vos auteurs.
En fait, ce qu'on imagine pour l'instant, mais on peut peut-être y retourner, c'est d'avoir ça en mode gratuit en test, je crois, et puis un mode premium après, en mode gratuit, on mettra une marque, on mettra, je ne sais pas quoi, un truc qui dit, ok, vous allez tester, c'est gratuit et tout, puis après, il y a un mode premium, pas cher, si c'est pas vendu, et plus cher si c'est un professionnel qui vous le prend et le vend, voire acheter collectivement, on est en contact dans le SRL. Centres régionaux d'élèves qui sont très intéressés pour ouvrir un truc comme ça à leurs éditeurs régionaux et qui n'auront jamais accès au plateforme pour l'instant.
Ah, et puis ça n'est pas forcément souhaitable. On peut souhaiter mettre en place un silo régional, un entrepôt.
Alors là, c'est fabrication. Dans notre logique, on a trois outils. On a fabrication, une plateforme de diffusion, silo ouvert, et une plateforme de bibliothèque. Là, on a un gros concurrent sur la plateforme de bibliothèque, c'est un embêtant, ça s'appelle Google Édition. Google Édition, c'est pas de l'édition, en fait. Son projet, c'est pas de l'édition, c'est d'être capable de dire aux gens, vous stockez les livres que vous avez soit achetés, soit récupérés à droite, à gauche, y compris sur Google, en domaine public, gratuit, vous les stockez à un endroit qui est votre bibliothèque. Vous l'organisez, cette bibliothèque, c'est-à-dire vous lui mettez des mots-clés, des classifications, c'est personnel, mais ça peut être aussi une bibliothèque municipale qui utilise une classification de type joué, je ne sais pas quoi. Donc on organise sa bibliothèque de pub, et à un moment donné, avec sa liseuse, on va chercher le livre dans la bibliothèque et on le prend sur sa liseuse. Sa liseuse pouvant être soit un iPad, un iPhone, je ne sais pas ce que vous avez, Android, un Sony Reader, ou une liseuse en ligne. Soit un plugin de Firefox, soit une liseuse en ligne. Vous avez plein de formes de liseuses qui vont chercher ce qu'il y a dans la bibliothèque. Ça, c'est le projet de Google, c'est le nôtre aussi. Donc, pour l'instant, il peut apparaître en octobre, donc il nous reste un mois pour faire apparaître. Vous avez vu qu'on a déjà la liseuse.
Ça fait longtemps que c'est des infrastructures.
On a l'infrastructure, puisque derrière, il y a S3 de Amazon, on n'a pas de problème. Mais bon,
est-ce que dans
on est quatre hein, à travailler. Google aussi, tu diras, mais bon, ils sont meilleurs.
Est-ce que dans ces formats-là, on a des formats pour faire du tracking, du suivi, c'est-à-dire faire des statistiques, savoir à chaque fois que le menu est prévu, le retrouver, enfin, du, c'est peut-être pas du watermark, mais être capable de faire un peu l'équivalent du RFID, quelque chose qui permette d'avoir un minimum de maîtrise. Je pense à l'auteur, déjà, il y a l'éditeur.
Les connaisseurs savent que ce n'est pas dans ma mentalité de passer les gens dans la lecture.
Okay.
Je pense que c'est un grand danger. Justement, c'est peut-être une des chances du livre numérique. C'est qu'une fois que vous l'avez téléchargé, vous êtes en principe, c'est vôtre. Donc on ne devrait pas vous tracer. Je dis en principe parce que c'est la notion inverse d'Amazon. Sur Amazon, en fait, quand vous achetez un livre, vous l'avez en lot, même pas en location en fait. Le livre, il n'est pas chez vous. Vous n'avez que le pied d'accès sur le système de Amazon. Et donc, quand Amazon décide de retirer l'édition de 1984 qu'ils avaient pour je ne sais pas quelle sont les formes de premier, les gens qui l'avaient acheté ne l'ont plus sur leur pied d'œuvre.
Ça fait partie du droit moral de l'auteur de retirer son œuvre.
Oui, pas les exemplaires déjà vendus.
Ben, s'il pouvait, si, ça fait partie du droit moral. Il ne peut pas physiquement. Physiquement, il peut pas, mais.
Ça n'a jamais marché.
Bah, si, un peintre, s'il veut détruire sa
toile, mais après, c'est des unicards.
Mais c'est décompté pour des raisons physiques, mais donc si la technologie le permettait.
Le peintre, je ne suis pas sûr qu'il y aura un conseil.
Il y a eu des cas.
Il y a Monet qui a détruit ses
œuvres. Un peu, également.
Il ne les avait pas vendus. Légalement, il peut. Il y a un autre aspect, c'est que sur le Kindle, maintenant, vous pouvez surligner un passage. Mais en fait, c'est pas vous qui surlignez, c'est que Amazon est au courant de tout ce qui est souligné, et ils font du calcul statistique pour dire. Dans ce livre, voilà les passages les plus surlignés. Vous pouvez même avoir un livre pré-surligné. Donc.
Ça marche aussi pour les gens qui distribuent leurs livres sous forme d'application, de communication, qui est une identification. On peut tout savoir, toutes les pages vues, quel endroit.
Dès qu'on va avoir des informations sur le nez, on va savoir qui va se dire.
Si vous êtes arrivé sur les textes, ce n'est pas tout à fait comme ça, je veux l'avenir. Donc j'essaie de développer des produits qui ne soient pas comme ça. Par contre, il y a une question que vous posez qui est celle de l'auteur. En fait, il y a un autre aspect, c'est vous avez des gens qui mettent des choses au pot commun, qui les mettent dans les biens communs. Par exemple, le prof dont je parlais, des choses comme ça. Ça les met au bien commun. Est-ce qu'il fait un travail moins important pour la société que celui qui va passer par une chaîne éditoriale, qui va vendre les livres, etc. Oh non, il y a un travail tout aussi important, surtout s'il a des lecteurs. C'est-à-dire, s'il est plus lu en ayant mis au pot commun par des tas d'élèves de tous les lycées pour trouver ça génial de pouvoir avoir un livre de cours dans leur iPhone plutôt que d'acheter des excellents bouquins qu'ils produisent. Donc, s'il a mis au pot commun, il faut qu'on arrive à un moment donné à dire voilà, grosso, quel est l'usage en nombre d'usages. Et qu'on ait une soupe à répartir entre tous ces gens pour créer du commun. Ça s'appelle la licence légale. Hein. C'est le projet de Philippe Aigrin qui s'appelle Internet et Création. C'est vraisemblablement comme ça que sera financée la musique. Et pourquoi que la musique, le livre, le.
Je vais formuler autrement. Alors, pourquoi Google pourrait faire ce que je viens de dire? Moi aussi, je suis pour le livre. Mais ce que je viens de dire, là, c'est-à-dire avoir un minimum de traçabilité, Google et Apple le font. C'est leur job, c'est tracer, c'est indexer, c'est calculer, c'est des computers, c'est le projet de Google. Et pourquoi nous, indépendants, ou petites structures, on ne pourrait pas, ou grosses structures, ou structures qui n'avons pas des centres de calcul énormes pour des ingénieurs pour le faire, pourquoi nous ne pourrions pas avoir également des outils qui nous permettent de maîtriser un minimum, parce que le boulot d'un éditeur, c'est pas seulement de fabriquer un papier, c'est aussi d'avoir un circuit de diffusion, c'est vachement important tout ça.
Est-ce qu'un éditeur peut savoir combien de fonds il a eu? Parce que Google, Amazon, c'est tout ce genre de choses qui mettent en place. Combien de fois c'est lu, voire combien de fois tes lignes, tes mots.
C'est lui le chargé aussi.
Téléchargé, ça c'est un autre.
Il faut savoir combien de fois téléchargé. Alors que ça c'est la plateforme de diffusion. Bien évidemment, dans les plateformes de diffusion, il faudra qu'on rende compte à la personne de combien de personnes ont acheté, y compris à 0 euro, 0 centime, combien de personnes ont acheté sur Apple, quand vous achetez quelque chose qui est gratuit, vous avez une facture. Moi je peux passer à Véran. Rendre compte à l'éditeur quand on est une plateforme de distribution combien de personnes vont acheter, vraisemblablement avec un modèle d'agence. C'est la seule chose que j'ai pas dit, c'est-à-dire quelqu'un dit je veux vendre 5 euros, il y a 30 ou 40% pour la plateforme et le reste pour l'éditeur. Voilà. C'est le modèle que fait Apple, hein, je crois que c'est 35%, Lumilog c'est 40%, enfin bon, c'est pas aberrant. Après, voir comment ça se peut partager entre
d'autres. Prenons un conseil régional qui va financer, bon, je suis en Rhône-Alpes, la RAG, qui va mettre de l'argent chez les éditeurs, donc ils mûrissent des fonds, donc ils vont produire des pubs, et ensuite ils partent dans la nature.
Et donc ils vont des plateformes.
Ils partent, voilà, ils voyagent. Et donc, on sait qu'on a mis de l'argent, mais. Le retour est extrêmement difficile à mesurer.
Et encore une fois, si c'est un retour de nombre de ventes ou de téléchargements, ça c'est correct. Si c'est un retour du nombre de lectures, pour moi, quand une bibliothèque a acheté un livre et qu'elle le prête, je n'ai pas besoin de savoir combien de fois il est prêté. C'est la responsabilité de la bibliothèque d'avoir acheté. Et d'ailleurs, la loi est comme moi. La loi dite sur le droit, pas du tout une loi sur le droit de presse, c'est une licence légale sur le prêt des livres. C'est-à-dire une bibliothèque paye avec moins de réduction si c'était un marché. La réduction est plafonnée et il y a une partie d'argent qui va à la SOFIA, et cette partie est redistribuée aux éditeurs et aux auteurs. Donc c'est une licence légale qui est liée au fait que quand la bibliothèque l'a acheté, vous l'a acheté. Et après, on n'a pas à savoir, une fois que j'ai. Même moi, j'ai acheté un livre. Si je le trouve génial, j'ai qu'une envie, c'est de le préparer. Donc ça, les auteurs n'ont pas à le savoir. Parce que sinon, on est dans une situation.
Oui, non, mais c'est pas du tout ce que. Enfin, faut pas déformer mon propos.
Non, je ne déforme pas.
Ce que je veux dire, c'est qu'il y a quand même.
Ça, c'est ce que font.
Il y a quand même un problème de fond. Il y a quand même un problème de fond, sans faire de jugement sur les fonds. C'est quand même le modèle économique et la question est évoquée tout à l'heure. C'est-à-dire que, faut bien, et tu parles d'achat à un moment, il faut bien quand même qu'à un moment, il y ait quelqu'un qui mette de l'argent à quelque part. Donc soit c'est des publicitaires, soit c'est des subventionneurs comme les collectivités, soit c'est quelqu'un qui achète parce qu'il trouve quelque chose d'intéressant. Enfin, je vois pas.
Trois modèles.
Oui, il y a un quatrième modèle qui est l'abonnement. Je m'abonne à Gallimard.
Ou service.
Voilà. Le mode streaming.
Quatre modèles, on voit pas d'autres.
Voilà. Et donc, dans ces modèles-là, à un moment ou à un autre, il y a quand même un minimum de contrôle. Le modèle streaming, c'est le robinet. Je mesure la qualité du robinet. Le modèle subvention, bon, bah, il y a quand même.
C'est justifié.
C'est justifié. Bon, moi, je travaille au CNAM, les conseils régionaux, quand ils demandent quand même que les auditeurs qui viennent subventionner en partie, ici, la feuille d'émargement, comme quoi ils sont présents. Enfin, il faut bien quand même qu'il y ait un
bon justifié.
Voilà, bien justifié.
C'est là où il y a un système de fabrication. Hein.
Voilà,
c'est fabrication. Et si c'est quelque chose d'accord sur les deux autres systèmes, c'est le système de diffusion. Si la plateforme de diffusion, il va falloir qu'elle enregistre des usages. Et comment des usages d'achat, des pratiques d'achat, pas des usages de lecture. C'est ça que nous sommes d'accord. Et on a la même chose pour la bibliothèque. C'est-à-dire que aujourd'hui, vous avez un problème des DRM sur les livres. Le DRM fait que je peux acheter un livre et pas pouvoir faire de copier-coller. C'est aberrant. C'est une situation qui n'est pas cohérente, qui n'est pas adaptée à. Dans ce cas, si je ne peux pas faire de copier-coller, je suis venu à.
partir du moment où le surlignage et l'enregistrement des usages ils peuvent améliorer l'expérience de lecture, l'expérience culturelle. Donc, à partir du moment où effectivement on peut rapprocher des citations, on peut avoir des recommandations à l'intérieur du livre, est-ce que ça ne permet pas aussi de transformer l'expérience en quelque chose de plus intéressant culturellement et intellectuellement parlant? C'est ça aussi la limite, c'est que c'est toujours envisagé comme une manière de gagner de l'argent et de surveiller, mais l'autre versant, c'est que si c'est bien utilisé, ces traçages-là, ils sont extrêmement intéressants pour
ces questions. Quand on lit un livre qui est prêt sur l'idée, quand même, on est orienté, on n'a pas la liberté de lecture qui est celle du premier lecteur. C'est important. Par contre, que les carnets de notes puissent exister et qu'une fois que j'ai lu le livre, je puisse accéder à mon carnet de notes, voire au carnet de notes que les autres auront mis en commun, ça oui. Et nous, on travaille sur ce que je disais tout à l'heure. L'idée, c'est qu'on réfléchit à avoir un format des carnets de notes sur les livres numériques. Et pas seulement des surlignages, mais des notes associées, des notes à froid marginal, qui est une vraie pratique pour soi-même, c'est-à-dire je suis un étudiant en thèse, je lis mes trucs, je prends mes notes au fur et à mesure de ma lecture, et à la fin je peux récupérer mon carnet de notes pour l'intégrer dans mon travail de thèse. Je suis enseignant, je fais des sélections de passages, des choses comme ça, je vais pouvoir les récupérer pour les donner aux étudiants. Enfin, il y a toute une série de pratiques, c'est complètement légitime. Mais ce que fait Amazon, encore une fois, à mon avis, c'est pas ça vraiment. C'est la logique, vous avez aimé, vous aimerez, ceux qui ont acheté achèteront. C'est cette même logique-là. Et vous avez acheté ce livre-là, donc vous allez être attiré par la même phrase, soulignée de la même manière par tous les autres parents. C'est un peu l'équivalent, si vous connaissez sur Flickr, les gens qui prennent des petits carrés de la photo et tout ça, et quand on regarde les photos sur Flickr, qu'on est attiré. Alors ça peut être très intéressant. Il y a le moment où il y a quelqu'un qui détaille quelque chose derrière, qui explique, et il y a la trois quarts du temps, c'est absolument sans intérêt, ça nous empêche de regarder l'image sur Flickr. Donc il faut qu'on trouve, on a une nouvelle possibilité d'échange culturel, et on a une nouvelle possibilité d'influence. Comment on va trouver un équilibre? Comment on va respecter la liberté du lecteur entre ces deux possibilités-là? Ça, j'avoue, si j'avais la solution. Mais je pense qu'il faut réfléchir à bosser sur ce point-là. C'est aussi un autre par rapport à l'idée de développer l'eau chaude, encore une fois. C'est fait qu'après, c'est une plateforme ouverte. J'ai beau être éditeur, en fait, je suis quand même universitaire. C'est-à-dire l'idée d'avoir des outils ouverts qui permettent en même temps de tester des choses, de tester des hypothèses, des pratiques, d'inventer des nouvelles choses en marchant, c'est un élément important parce que sinon, on se retrouve avec des tas de produits finis, très bien finis, très bien léchés, mais qui, quelque part, nous dépossèdent d'un outil collectif absolument fondamental.
Les premiers livres qui étaient recopiés par les moines, la marche pour la glose, c'était quand même quelque chose qui voyageait et le deuxième lecteur lisait la glose du premier. Ah, bon, je sais, c'est beau, ce que je viens de dire. C'est bien la question qui vient d'être posée un petit peu.
Oui, mais c'est pas la glose de
accessoirement, la renaissance, c'est-à-dire la capacité à critiquer, n'est venue qu'avec le livre. Sauf une fois qu'on a arrêté d'avoir l'imposition par le premier lecteur des notes à trois marches. C'est aussi ça qui est au fond.
Le problème, c'est que Amazon ne permet pas d'accepter ou de refuser. C'est ça le livre, c'est pas le problème. Ça, à partir du moment où on a le choix, je veux bien participer à une glose.
Oui, c'est vrai, je me méfie de cette logique du choix entre des choix contraints. C'est-à-dire, quand on a des choix, je suis un peu informaticien, je suis des bibliothécaires, je suis devenu informaticien par force des choses, parce que je donne des cours
à des étudiants d'informatique, et je m'aperçois que code is law, c'est-à-dire ceux qui font le code enferment derrière en réalité ceux qui les usagent. Et c'est une nouvelle manière de produire de la loi. Écrire une code informatique qui t'impose quelque chose, ça produit de la loi. Plus fort que les lois d'ailleurs qui existent. Alors, c'est vraiment quelque chose aussi d'important, c'est-à-dire quand on a des géants, des Google, des Amazon, des Apple, qui produisent du code, quelque part, Apple est venu avec son nouveau code, le deuxième capitalisation boursière du monde, juste derrière ExxonMobil. Ils ont des intérêts qui ne sont pas forcément les mêmes que les intérêts de la société. Même si par ailleurs, il faut des produits géniaux, donc au moins on adore les utiliser, mais pas à ce
Il y a un aspect de votre système qui est peut-être intéressant par rapport à ce que j'ai demandé tout à l'heure, c'est la possibilité de, que plusieurs personnes participent à réaliser un ouvrage puisqu'on passe par le web. Pour produire de l'EPUB actuellement, c'est plutôt une seule personne qui peut le faire, que ce soit InDesign, Feedbooks, etc. Alors que vous, donc, s'il y a plusieurs personnes inscrites, elles peuvent toutes participer, un chapitre par personne.
On a ce qu'on appelle des comptes, donc les gens ont des comptes, mais ça c'est ce que Charlie est en train de faire, ça devrait marcher ici à la fin de la semaine prochaine. Chaque compte est relié à un éditeur, lui-même personnellement, mon auto-éditeur, ou un éditeur collectif, ou un groupe collectif, et donc à ce moment-là, chacun des comptes peut travailler sur le livre, ajouter son chapitre, faire un livre collectif. Là, on est dans des pratiques, puisqu'on est en ligne, le système est en ligne, ça s'appellera polyfic.fr. Si vous y allez, la polyfic.fr, vous testez, il y a un gros machin qui vous demande un login et un mot de passe, vous n'avez pas le droit de rentrer, mais nous, on s'est y rentré, ça marche.
Il n'y a pas d'équivalent du peuple actuellement. Il n'y a pas d'autre équivalent du peuple. Vous seriez le seul à
la chance.
C'est vous, quand plusieurs personnes peuvent participer. Je ne crois pas. C'est
d'obliger
un ouvrage.
Il y a une faiblesse du format EPUB, c'est que quand on fait un ouvrage, nous, même nos ouvrages imprimés, la plupart du temps, les éditeurs aiment ça parce que ça ne se vend pas, mais moi je trouve ça très intéressant quand je produis un livre, c'est à la fois pour synthétiser de l'information qui souvent existe déjà, tous nos livres qui sont sur la table, l'information était déjà ailleurs, et resynthétiser, donc elle prend un nouveau caractère, d'avoir été mis ensemble. Et en même temps, ça crée un réseau des auteurs. Je suis en train de travailler, on va publier dans un mois et demi un livre sur les biens communs de la Renaissance. Ce qui est tout autant intéressant, c'est d'avoir contacté la trentaine d'auteurs qui travaillent dans un réseau mondial, à l'échelle du monde, il y a des Indiens, il y a des Américains, il y a des Brésiliens, il y a tout ça. Donc, arriver à faire que se constitue ce genre de réseau me semble aussi un vrai travail d'éditeur, c'est pour ça qu'on en a besoin. Donc, on a. Quand on a des ouvrages avec des chapitres séparés, sur le format actuel, c'est pas possible de dire le premier chapitre est écrit par machin, il est un bloc, mais il est intégré dans un livre. Donc ça va être un peu plus, on espère. Il y a des faiblesses encore au format parce qu'ils ont créé ce format dans la logique du roman. Le livre, c'est le roman, quoi. Ce qui a été. Principalement les premiers pubs, c'est le roman du domaine public. Donc on n'a pas imaginé que des gens allaient faire d'autres usages. La revue, voilà, typiquement la revue, les livres thématiques, etc. J'ai vu, on a fait pour ça. Mais pour l'instant, ça va évoluer. On arrive à le faire quand même. On va essayer de trouver des ruses de présentation. On va être obligé dans un premier temps de le mettre dans le manuel. Si ce n'est pas ouvert en fait au public, c'est parce qu'on a le problème de rattacher à des comptes et le deuxième problème, c'est le manuel. En informatique, c'est toujours le manuel. Donc ça va être bien. Au moins on y teste. Format pub, c'est un système dérivé de DSI. DSI, c'est donc le format des appareils pour les webcams. Donc, a priori, quand on a fabriqué un webcam, il est accessible. pour le fabriquer lui-même, je ne vois pas faire ça. Créer un fichier, un copier-coller avec la typographie et tout ça.